France Culture.
La Voix Nue, épisode 3, l'expérience du GIEC. Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
Alors, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. On a appris quand même à le connaître au fil des années. Vous y avez collaboré avant de coordonner puis de présider un groupe de travail. J'aimerais qu'on procède aujourd'hui un peu comme on l'a fait à l'épisode précédent, l'épisode 2, c'est-à-dire que vous nous détaillez la façon dont vous y avez travaillé. C'est un peu une deuxième facette de votre activité, il y en a plusieurs. Mais nous expliquer dans le détail comment ça fonctionne, l'intérêt des rapports de ce GIEC, le processus de validation, de la diplomatie, de la science, le travail collectif, l'interdisciplinarité, un peu tout ça. Est-ce que pour vous déjà le GIEC c'est une façon un peu pour tout le monde, c'est-à-dire vous, nous, grand public et peut-être décideurs politiques, de se repérer dans la jungle des quelques 20 000 publications par an sur le climat?
La différence entre une étude, un travail et un rapport du GIEC, c'est le recul collectif, la maturation de l'état des connaissances, où chaque élément probant finalement est passé en revue, ce qui permet de distinguer des faits établis, des connaissances avec un degré de confiance élevé, ou bien des choses encore incertaines, émergentes, et même les limites des connaissances. C'est vraiment ça le principe de l'évaluation dans le cadre des rapports du GIEC, avec finalement deux piliers. Un pilier qui est les connaissances nouvelles et leur évaluation. Et puis un deuxième pilier qui est qu'est-ce qui est pertinent pour éclairer des choix. Parce qu'en fait, ce n'est pas des encyclopédies ou des livres de cours. C'est dans un cadre intergouvernemental. Et donc, pour parler de mon rapport au GIEC, je dirais que ça a été mis en place dans les années 80. Je ne savais pas que ça existait à ce moment-là, du tout. Le premier rapport publié en 90, il a donné lieu à la mise en place de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique au moment de la grande convention à Rio sur le développement durable à l'époque. Je ne savais pas que ça existait. Et j'en ai pris conscience quand je suis arrivée en doctorante dans un laboratoire de recherche où j'avais enfin accès aux publications scientifiques qui, en réalité, sont très difficiles d'accès pour une personne curieuse puisque c'est dans des journaux scientifiques, souvent sur abonnement. Donc j'ai pris conscience notamment du deuxième rapport du GIEC publié en 95. Et j'ai vu en fait que c'était une formidable porte d'entrée sur l'état des connaissances scientifiques, et même sur un sujet donné, comme il y a une évaluation, on voit les travaux qui sont cités. On peut après aller regarder les autres publications qui se sont appuyées sur ces travaux-là, et suivre finalement le fil de production de connaissances d'une manière vraiment intéressante. Je les ai utilisés pour enseigner, et j'ai eu l'opportunité donc pour le quatrième rapport du GIEC, donc dans les années 2005, je pense.
2007-2010.
C'est ça, mais en fait, le travail préparatoire, c'est avant. Donc, il y a eu un appel à auteur, je l'ai vu passer. Il y avait un chapitre sur les climats passés, comme je travaillais sur cette thématique-là. Ça m'a motivée. Donc, j'ai candidaté, j'ai été retenue. Et donc, j'ai participé à l'évaluation de l'état des connaissances sur les climats passés dans ce cadre-là. Donc, c'est une équipe d'une douzaine de personnes avec deux coordinateurs à l'époque. Et puis, on allait chercher des contributeurs, c'est-à-dire des scientifiques qui allaient nous aider à améliorer notre évaluation. Et j'ai vu, en fait, tout le processus de relecture critique où un chapitre donné va être relu par la communauté scientifique. Et donc, on va avoir des centaines, parfois, de personnes qui vont aller regarder une page ou un chapitre, donc bien plus que les 2, 3, 4 relecteurs d'une étude scientifique donnée. La relecture également par les experts nommés par les gouvernements. Et puis après, comment les connaissances issues d'un chapitre, elles vont être intégrées dans un résumé technique d'une centaine de pages, et puis un résumé à l'intention des décideurs d'une trentaine de pages qui, lui, est approuvé mot à mot et phrase par phrase par les représentants de tous les pays. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce que ça m'a donné comme profondeur sur l'état des connaissances. Parce qu'en fait, on fait un pas de côté. Et au lieu d'être focalisé sur un travail donné à montrer à quel point il est formidable, ça rend très humble, en fait. Et puis, ça permet aussi de formuler ses conclusions d'une manière rigoureuse. Parce que dans l'élaboration des rapports du GIEC, chaque conclusion, elle est étayée par un niveau de confiance qu'on estime. Et puis alors, le truc qui est passionnant quand on est scientifique, c'est le volet frontière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne peut pas évaluer, qu'est-ce qui manque, ce qu'on ne sait pas. Parce que en creux, c'est des voies de recherche pour la suite. Après, donc, j'ai candidaté pour le 5e rapport du GIEC comme coordinatrice du chapitre pour les climats passés. Et là, j'ai découvert la suite. Parce qu'en fait, comme coordinatrice de chapitre, j'ai été impliquée dans l'équipe de rédaction du résumé à l'intention des décideurs. Et donc là, j'ai pris la mesure de finalement cette phase, cet aspect de diplomatie que je ne voyais pas en travaillant sur un chapitre donné. Et notamment, comment les représentants de tous les pays réagissaient par rapport à ce rapport qu'ils avaient commandé. Parce qu'en fait, c'est une co-construction. Dès le départ, on écoute les attentes des différents pays, les thématiques pour lesquelles ils veulent des connaissances. C'est parfois étonnant, hein, mais il y a par exemple une attente de connaissances sur les aspects irréversibles à long terme. C'est pas que des choses immédiates et de court terme. Il y a un besoin de connaissances, bien sûr, sur les aspects régionaux, là où l'information va être directement en appui à des questions de gestion de risque ou d'adaptation. Et donc, sur le 5e rapport du GIEC, mon souvenir de session plénière, première fois, avec les représentants de tous les pays, donc on présente le résumé pour décideurs, les deux coprésidents, suisses et puis chinois qui le pilotaient. Et les représentants de l'Arabie Saoudite ont remis en cause quasiment la première phrase de l'introduction qui disait « les sciences du climat s'appuient sur des observations, la compréhension des processus, la modélisation ». Et ils proposaient d'exprimer cela en disant « les sciences du climat s'appuient sur des hypothèses, des scénarios et des projections ». Ce qui ne veut pas dire exactement la même chose. Donc là, j'ai pris la mesure que voilà, les résultats scientifiques, finalement, ils interfèrent avec des enjeux politiques, géopolitiques. Tout ce travail très compliqué à percevoir au départ pour des scientifiques, de diplomates, qui vont parfois passer des heures à discuter entre eux sur la formulation d'une phrase. Et puis petit à petit, ça permet de comprendre que oui, cette phrase-là, elle est importante dans le contexte des négociations internationales sur le climat. Il y a en fait des attentes politiques complexes sur la manière dont cette formulation d'un rapport scientifique pourra ensuite être transcrit dans des négociations internationales.
Mais comment ça se résout, ça ? Qui a le fin mot de l'histoire ou le fin mot de l'expression ou de la formulation à utiliser ?
Alors en fait, c'est sur la base de l'évaluation complète dans le rapport et des travaux scientifiques sous-jacents. Et donc, on va passer beaucoup de temps à expliquer pourquoi on a formulé cette phrase de cette manière-là, quels sont les éléments probants qu'on a passés en revue. Et ensuite, il y a tout un travail d'appropriation par les diplomates qui représentent les différents pays, souvent adossés par des experts, des sujets qui sont avec eux, qui vont comprendre le raisonnement, qui vont du coup s'approprier les conclusions du rapport en comprenant bien les éléments profonds, le sous-tendant. Et à la fin, souvent, on revient à la formulation initiale proposée par les scientifiques, mais en ayant fait toute la boucle de raisonnement et le partageant, ce qui permet de l'étayer. Sur le volet, physique du climat, c'est pas le plus sensible. Le plus sensible, c'est dès que ça touche à des enjeux de vulnérabilité ou bien des enjeux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans des secteurs particulièrement sensibles. Mais pour le 5e rapport du GIEC, un des points très sensibles...
Quand vous étiez coordinatrice encore.
De chapitre, voilà. Un des points les plus sensibles, c'était le lien étroit entre le cumul des émissions de CO2 dans le monde et le niveau de réchauffement planétaire. C'est quelque chose qui a été établi dans la communauté scientifique à ce moment-là. Malgré la complexité du fonctionnement du climat, des rétroactions, du cycle du carbone, finalement, les connaissances scientifiques étayaient cette relation étroite. Et cette relation étroite, elle est importante, parce que ça veut dire si vous voulez limiter le réchauffement à un certain niveau, vous pouvez le traduire en émissions de CO2 compatibles avec ce niveau-là, en marge de manœuvre qui reste, en budget carbone résiduel. Et d'ailleurs, c'est cette relation-là qui sous-tend la manière dont, par exemple, la France fixe ses cibles climat en budget carbone à tenir par période successive, en s'allouant sa contribution à cet effort. Ça avait été très compliqué, et notamment, je me souviens à l'époque, par rapport à la Chine, et il y a eu tout un travail complexe sur la manière de présenter ce résultat, en présentant également les contributions jusqu'à présent et les marges de manœuvre futures, pour tenir compte aussi de la sensibilité de pays en développement, sensibles au poids des émissions historiques, les responsabilités historiques, et puis la marge de manœuvre qui reste. Et donc on peut présenter les mêmes faits objectifs rigoureux d'une manière telle que cela répond aux attentes liées à des positionnements géopolitiques différents, tout en restant très rigoureux. Et c'est ce que permet faire l'approbation. Et l'autre chose, c'est que on avait tendance, par exemple, dans les pays tempérés, comme ici, à se focaliser sur les aspects de température, mais pour des pays tropicaux, La manière dont le changement climatique s'exprime, de manière aiguë parfois, ce sont les changements du cycle de l'eau, des précipitations. Et donc ces phases d'approbation, elles permettent aussi finalement d'enrichir les résumés pour décideurs d'éléments qui étaient présents dans le rapport complet et qui sont pertinents pour les représentants de différents pays du monde. C'est comme ça, c'est pour ça que je parle de co-construction. Pour moi, le résultat à la fin, il est meilleur, en fait, dans ce cas-là, parce qu'il est plus complet.
Et puis c'est une base scientifique commune incontestable, au final.
Exactement. Donc, à la fin, un rapport du GIEC approuvé par les représentants de tous les pays, ça permet de séparer ce socle scientifique reconnu par tous des négociations internationales. Et puis, donc, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises par la personne qui fait le lien entre le GIEC comme organisation et le gouvernement français, ce qu'on appelle le point focal, ça dans tous les pays, qui, en fait, pour le sixième cycle d'évaluation du GIEC, cherchait à identifier des candidatures avec l'idée de pouvoir présenter une candidature pour un rôle de coprésidence, ce qui n'avait jamais été le cas précédemment pour la France. Il y avait eu des gens comme Jean Jouzel qui avaient été vice-président d'un des groupes de travail. Et donc, j'ai beaucoup hésité. Je ne pensais pas du tout en être capable. L'ancien coprésident suisse Thomas Stocker m'a aussi sollicité en m'exprimant sa confiance. Et puis, je me souviens d'une discussion avec mes filles qui me disaient « Mais il y a combien de femmes qui ont fait ce rôle dans le passé ?» Et je disais « Bah, jusqu'à présent, une seule, une américaine, Suzanne Solomon. » Et puis après, ça a fait son petit bonhomme de chemin où je me suis dit « Mais je ne peux pas me plaindre qu'il y ait un effet de plafond de verre si je ne cherche pas non plus, moi aussi, à participer à renforcer la place des femmes dans des positions de pilotage de ce type d'organisation. » Du coup, j'ai été retenue. Je ne sais pas comment ça a fonctionné. Moi, j'avais réfléchi à ce que j'aurais voulu changer dans les modalités de fonctionnement, faire évoluer la structure du rapport du groupe 1 du GIEC en ayant des choses notamment plus pertinentes en appui à la prise de décision. J'avais réfléchi à certains aspects aussi liés à la communication qui me tenaient à cœur, faire en sorte de rendre aussi plus accessibles ces rapports. Donc j'ai été retenue. Aucun autre pays n'a présenté de candidature de pays développés, ce qui était une marque de confiance par rapport à ma capacité à le faire, parce que dans d'autres cas, on peut avoir plusieurs candidatures et donc un vote dont les résultats peuvent être plus incertains. Et puis j'ai été amenée à faire tandem finalement avec un collègue chinois que je ne connaissais pas auparavant, qui venait aussi de la physique de l'atmosphère, hein, Pan Maojai, des services météorologiques chinois. Ce qui était intéressant, c'est que malgré nos différences de parcours, nos différences culturelles de pays, sur le fond, c'est-à-dire sur notre rapport aux sciences du climat, on avait la même exigence, on se comprenait parfaitement, il y a eu zéro friction entre nous pendant 8 ans, ce qui est assez rare.
Donc là, vous étiez chargé de superviser l'élaboration du rapport sur la connaissance des bases physiques du changement climatique, c'est ça?
Oui, et puis il faut voir...
Du groupe. Sur les bases physiques.
Exactement. Donc deux coprésidents, 7 vice-présidents, un groupe très dynamique, avec beaucoup de complémentarité dans les domaines de compétences. Et il faut bien voir que le sixième cycle du GIEC, il a démarré en 2015, au moment des objectifs de développement durable, de la mise en place de l'accord de Paris, mais aussi de choses constructives en termes de réflexion sur les risques, par exemple, l'accord de Sendai sur les risques de catastrophe. Donc un cadre en fait de multilatéralisme sur l'environnement, avec une volonté d'avancer forte. Et donc on a eu également à superviser 3 rapports spéciaux, ce qui n'était jamais arrivé. Un rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, une demande directe en lien avec l'accord de Paris sur le climat, parce que les pays n'arrivaient pas à s'accorder sur l'objectif de long terme, largement sous 2 degrés, proche de 1,5 degré. Donc ils ont demandé au GIEC de faire une évaluation scientifique, ce qui peut être un piège, mais qu'on a tourné sur beaucoup d'aspects assez innovants, de manière très interdisciplinaire, et ça l'a permis de mieux comprendre les risques associés à chaque 10e demi-degré de réchauffement supplémentaire. Ce sont des mondes très différents, un monde 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud ou davantage, mais aussi par le lien étroit avec les multiples aspects de développement durable. Il n'y a pas que l'enjeu climat, il y a l'enjeu élimination de la pauvreté, de la faim, les enjeux biodiversité, les enjeux, on va dire, de transition juste, de développement. Et du coup, on a vraiment axé une réflexion approfondie sur les leviers d'action pour limiter le réchauffement, mais aussi leurs bénéfices ou leurs risques par rapport à toutes ces dimensions de développement durable.
En particulier dans ce sixième cycle, il y avait une dimension équité qui vous a particulièrement intéressée.
Exactement. Donc cette dimension d'équité, cette dimension de vulnérabilité selon le niveau de réchauffement planétaire, les contextes hautement vulnérables, mais aussi comment on peut agir pour limiter le réchauffement en tenant compte de ces dimensions d'équité, tout l'angle de transition juste qui a été vraiment élaboré dans la construction de cette évaluation. On a également fait un rapport sur le changement climatique et l'utilisation des terres qui touche en fait au système alimentaire avec une approche de système pour la première fois.
Pour la première fois, oui.
Et c'est le premier rapport qui a dressé finalement les trois grandes conventions de l'ONU, le volet climat, désertification et biodiversité, en montrant en fait comment répondre de manière intégrée à ces différents enjeux. C'est celui qui a eu le moins de retombées en termes de négociations internationales. Ce qui est assez intéressant de voir ce décalage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de dynamique internationale portant sur les transformations du système alimentaire pour les enjeux de soutenabilité, climat, biodiversité, désertification. Et puis après, un rapport intéressant sur océan et cryosphère. Donc là, ça touchait aussi plus à mes propres thématiques initiales de recherche et qui portait vraiment sur nos interdépendances comme société humaine, aux composantes lentes du climat, l'océan, les glaces, mais aussi les notions d'irréversibilité qui sont présentes et les réponses intégrées qui peuvent être apportées, mais ancrées dans des géographies, cette fois. Les régions polaires, les régions de montagne, les petites îles, les régions littorales, l'océan. Et donc, une approche un peu différente de ce qui avait été faite précédemment et qui a été reprise dans les rapports principaux, donc notamment sur les bases physiques, celui que j'ai supervisé.
Vous parliez tout à l'heure, Valérie Masson-Delmotte, de la tension entre la rigueur scientifique et le langage politique, et parfois de la récupération ou des tentatives de pression même de certains pays pour que telle formulation soit retenue dans les conclusions plutôt que telle autre. Est-ce que le coprésident d'un groupe de travail a un peu plus de poids dans cette diplomatie par rapport aux mots, par rapport au langage à utiliser, est-ce que par rapport au coordinateur ou à l'auteur, en l'occurrence l'autrice que vous étiez?
En fait, on a un rôle qui est celui de créer la confiance. Donc la confiance par rapport aux scientifiques qui dédient en fait du temps.
Beaucoup de temps, c'est des nuits
dans lecture. Un quart à 50% du temps de travail pendant plusieurs années, non rémunéré, hein, à contribuer à l'élaboration de ces rapports. Donc c'est important de créer la confiance, c'est-à-dire que leur rigueur soit respectée. Puis après, il y a comment on crée la confiance avec les représentants de tous les pays en session plénière en mode ONU, où on doit mener les délibérations conduisant à l'approbation, phrase par phrase, mot par mot, du résumé à l'intention des décideurs. Et la confiance, c'est dans le respect qu'on apporte aux commentaires écrits qui ont déjà été reçus, la manière dont on prépare la réponse, toujours ancrée sur l'état des connaissances, la rigueur scientifique, et puis cette neutralité hein, qui est attendue du GIEC. Le GIEC ne fait pas de recommandations. Il est neutre, non prescriptif, et c'est un point extrêmement important dans la construction de cette confiance. Certains diplomates essayent de pousser pour que les formulations aillent dans le sens qui peut les intéresser. Et donc, il faut aussi être capable de comprendre, bien sûr, ce contexte géopolitique particulier et d'être ferme pour défendre l'état des lieux scientifique. Dans le rapport sur 1,5 degré, l'approbation a été atroce. C'est un rapport qui nous a été demandé par la Convention des Nations Unies sur le changement climatique en lien avec l'accord de Paris en 2015, commandé par les gouvernements. Et la phase d'approbation a été atroce, et notamment certains pays très liés à l'exportation des énergies fossiles ne voulaient pas qu'on reflète dans ce rapport que les promesses faites dans le cadre de l'accord de Paris ne nous mettaient pas sur une trajectoire permettant de limiter le réchauffement vers 2 degrés ou vers 1,5 degré. Pourtant, il y avait plus d'une vingtaine de travaux scientifiques indépendants qui convergeaient tous et qui avaient étayé notre évaluation. Tout a été essayé à ce moment-là, y compris mettre une note de bas de page en soulignant que certains pays n'étaient pas d'accord. Mais je pense que par rapport à la capacité à attirer des investissements, c'était difficile d'être souligné en note de bas de page. Et donc moi j'ai eu à un moment donné l'impression que peut-être ce rapport ne pourrait pas être approuvé. Et j'avais en fait dans ma tête un plan B. Je m'étais dit, si en fait ça ne passe pas cette partie d'approbation, eh bien en fait je vais demander l'accord des auteurs pour le publier indépendamment, en disant le rapport que les gouvernements ont commandé mais qu'ils ont refusé de recevoir, et ce serait probablement un meilleur best-seller que un banal rapport du GIEC. Et du coup ça m'avait permis d'être assez zen, même face à plusieurs nuits de tension sur la consolidation de ce rapport. Et à la fin on a gagné entre guillemets, au sens où tous les pays ont approuvé ce rapport-là, mais après, il a été enterré dans le cadre des négociations internationales.
Vous avez arrêté hein, en 2023, vous avez passé le relais en juillet 2023, le flambeau à Robert Votard, météorologue et climatologue français. Qu'est-ce que vous retenez de ces 8 années, en dehors de la suractivité, en dehors sans doute de la fatigue et en même temps de l'intérêt, de la curiosité, de cette ouverture au monde? Au fond, qu'est-ce que vous avez retiré de ces 8 ans de pratique au GIEC, pour vous, scientifiques, et pour vous, femmes, également?
Le foisonnement des travaux de scientifiques, qui sont encore présents, les sciences même du climat au sens physique, hein, qui évoluent avec la capacité à avancer sur certains processus dans le fonctionnement du climat, sur l'information régionale qui peut être construite. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire, c'est un champ dynamique, d'où l'importance d'avoir ces évaluations régulières. Un contexte géopolitique de plus en plus tendu, qui n'a fait que se tendre au cours du 6e cycle du GIEC, une approbation du rapport de synthèse très difficile, un début de 7e cycle très complexe, où même le calendrier de restitution des rapports à venir n'est pas encore défini, alors que le travail a démarré, et certains pays cherchant à décorréler les bilans mondiaux de l'accord de Paris, qui ont lieu tous les 5 ans, du rendu des rapports du GIEC. Si, en fait, les bilans mondiaux du suivi de l'accord de Paris sur le climat ne s'appuient pas sur un état des connaissances scientifiques établi et reconnu par tous, bah, ce sera hors sol, et ça rendra peut-être aussi les évaluations dans le cadre des rapports du GIEC moins pertinents. C'est une façon d'affaiblir aussi la voix de la science sur cette place-là. Après, il y a aussi, en fait, tout ce qui peut être fait pour que les rapports du GIEC y donnent à voir les connaissances scientifiques qui peuvent être utiles en appui à la prise de décision dans différents secteurs d'activité à l'échelle régionale. Et ça, c'est important parce que ça permet de mesurer comment rendre les connaissances qu'on appelle actionnables ou utiles, faire en sorte qu'elles puissent être mobilisées pour accompagner des changements. Et moi, je travaille sur les climats passés, donc je sais qu'il y a eu des variations naturelles au cours du temps. La différence aujourd'hui, c'est que c'est dû à nos activités et qu'on est capable de les anticiper. Et ça, il faut en faire une force, il faut en faire un levier d'action. Et pourtant, aujourd'hui, on voit une obstruction qui s'organise d'une manière encore plus profonde et des attaques majeures sur les sciences du climat, notamment aux États-Unis. Et pour moi, c'est encore plus important qu'on ait en fait cette capacité de diplomatie scientifique où des scientifiques de toutes les régions du monde, quels que soient les conflits entre les pays, soient capables d'aller apporter un regard critique sur l'état des connaissances et de le donner, de le rendre à l'ensemble de la société. C'est encore plus important aujourd'hui, il me semble, dans le contexte actuel.
Quand je vous demandais si vous aviez changé vos pratiques, par exemple, je sais que vous participez désormais à des comités d'éthique. En dehors du CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, vous êtes dans des comités d'éthique en commun, comme ça qu'on les appelle, de l'IRD, de l'IFREMER, de l'INRAE, de la CIRAD. Est-ce que ça vous vient de cette expérience au GIEC qui vous a fait finalement réfléchir aussi sur vos pratiques en termes d'éthique?
Alors ça fait réfléchir sur les pratiques de production de savoir, d'appropriation de savoir, ça fait réfléchir sur les interactions entre science et société. Je sais que dans beaucoup de contextes, il n'existe pas d'équivalent du GIEC, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement une boussole qui peut être reconnue sur différents sujets. Donc on a eu beaucoup d'échanges, par exemple, avec des collègues dans le secteur de la santé, qui, justement, on l'a bien vu au moment de la pandémie, il y a eu de la production de connaissances, la recherche qui balbutiait. Il manquait ce cadre, ce recul que permet l'évaluation collective. C'est effectivement quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de ces évaluations du GIEC, à m'interroger sur la responsabilité, les devoirs des scientifiques par rapport à la société, la manière de conduire une évaluation ou une expertise finalement, avec vraiment un sens aigu des responsabilités.
Et en tant que femme alors, puisque vous étiez la seule après Suzanne Solomon coprésidente au sein du GIEC.
Alors on était deux pour le sixième cycle avec ma collègue Debra Roberts d'Afrique du Sud.
C'est énorme, sur une centaine de chercheurs.
Et on s'est beaucoup soutenues l'une et l'autre, notamment lorsqu'il y avait, vous savez, ces décisions, ces discussions où vous avez des hommes avec de l'aplomb, avec plus d'expérience, qui parfois, lorsque vous faites une proposition, ignorent votre parole et puis ensuite continuent à avancer. On a appliqué une forme de sororité à chaque fois en se soutenant l'une et l'autre sans vraiment se coordonner. de sorte à ce que nos voix soient entendues au niveau du bureau du GIEC avec le président, les vice-présidents. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, je suis très contente que pour le 7e cycle, la proportion de femmes scientifiques ait été plus forte. C'est quasiment la parité maintenant pour le 7e cycle, donc un progrès considérable depuis les premiers rapports du GIEC. Moi, j'avais été très attentive aux effets de plafond de verre, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les auteurs, et de diversité d'ailleurs, hein, de représentants des différents pays, en reflétant la communauté scientifique, hein, qui n'est pas toujours parfaitement équilibrée, mais faire en sorte aussi que cette diversité se reflète au niveau des coordinateurs de chapitres, coordinatrices, et des représentants des auteurs pour la rédaction, par exemple, du résumé à l'intention des décideurs. Parce que moi, j'avais vu l'effet plafond de verre pendant le 5e cycle, on était peu de femmes coordinatrices de chapitres. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce qu'en fait, on a parfois des manières de penser de personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont des profils un peu similaires, même génération, venant du même pays, publiant ensemble. Et plus en fait on a des groupes de scientifiques diversifiés, avec un renouvellement de génération, avec des scientifiques des différentes régions du monde, plus on enrichit la qualité de l'évaluation, plus on va avoir un regard critique approfondi, et meilleure en fait sera la qualité de l'évaluation. Alors ça vraiment c'est ce que j'ai observé de manière éclairante.
Après le GIEC, vous avez repris la recherche là où vous l'aviez laissée.
Alors, c'est pas facile, hein, parce que j'avais passé beaucoup de temps à m'impliquer à la fois dans la supervision des rapports, mais aussi le partage des résultats dans beaucoup de contextes différents. Et donc, je suis revenue au travail de scientifique, mais également avec une implication dans différentes expertises au sein du Haut Conseil pour le Climat, au sein de l'Académie des technologies ou de l'Académie des sciences, où j'ai participé récemment à un avis qui porte sur les approches de géo-ingénierie climatique, un sujet particulièrement sensible.
Et vous disiez, Valérie Masson-Delmotte, que cette matière que constituent les rapports successifs du GIEC sont une mine d'or.
Les rapports du GIEC, on les rend aux représentants de tous les pays. Mais en fait, pour moi, on les rend aux citoyens. On les rend à des personnes qui vont travailler dans des services techniques de collectivités territoriales, pas forcément les élus, mais ceux qui portent en fait l'action, la réflexion sur les infrastructures, sur l'aménagement. On les rend à des gens qui ont la même formation initiale que moi, des ingénieurs, qui travaillent dans différents contextes, gestion des forêts, de l'eau, les bâtiments, les infrastructures. Donc moi, j'avais beaucoup d'efforts pour qu'on puisse rendre plus accessibles ces connaissances, y compris aussi, par exemple, pour les actuaires, qui sont ceux qui font l'évaluation de risque. Et une chose qui vraiment me touche beaucoup, c'est quand des personnes d'horizons différents me remercient pour ce travail-là. Ça m'arrive souvent, en réalité. Des enseignants qui l'utilisent pour faire cours, des personnes qui l'ont utilisé dans leur cadre professionnel comme une fenêtre pour accéder aux connaissances vis-à-vis du changement climatique et des leviers d'action.
Pour l'épisode suivant, Valérie Masson-Delmotte, vous disiez que la matière que représentent ces rapports du GIEC, c'est une matière qui est comme une mine d'or, bien entendu, pour tout un chacun, mais c'est aussi une matière qui est très critiquée, voire contestée, par des climato-sceptiques de tous acabits. Et ce besoin que vous ressentez de plus en plus de vous battre pour la science, c'est ce que nous verrons à l'épisode 4, Debout pour la science. Merci beaucoup.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Valérie Masson-Delmotte. Réalisation Félix Levacher, prise de son Thomas Robin, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.